Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes en direct pour Côté Club, le magazine de toute la scène française et plus si affinité, à podcaster évidemment. Ce soir, nos invités sont la divine, cosmique, fantasque et très corse Barbara Carlotti et celui qui explore toutes les dimensions psychédéliques, sensorielles et pataphysiques de la musique pop moderne, le Arthur H, pas aspiré mais toujours très très inspiré. Voilà, vous savez presque tout. Maintenant, on écoute tout. Surtout Laurent Goumard, le seul quinca stylé capable de fêter comme il se doit ce soir. Une très très vieille dame de compagnie, la radio. Allez, bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Eh bien, merci Didier Varro pour cette introduction. Quel lancement! Je n'aurais pas mieux fait. Alors, ce soir, Côté Club, faites donc la radio qui a 100 ans avec les voix de celles et ceux qui ont fait et qui font la musique sur France Inter. Et tout de suite, je retrouve celui qui me passe la main chaque soir, Mischka Assayas. Bonsoir.
Bonsoir, mon cher Laurent.
Vous êtes là. Vous êtes toujours là, de toute façon.
Écoutez, où voulez-vous que je sois à cette heure-là?
Même dans mon émission.
Oui, je suis partout. Je suis partout.
Alors, je vous ai chargé d'une mission. Vous savez, on lance toujours le premier titre d'une playlist qui ouvre donc Côté Club. Ce soir, vous allez donc lancer le titre d'ouverture, celui par qui et par quoi tout commence dans l'émission. Un extrait de la playlist de France Inter. Alors, qu'est-ce que le grand Manitou de Very Good Trip a choisi?
Vous voyez, traité de spécimen, maintenant c'est grand Manitou, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Grand Mufti, imminence, je sais pas, je vous suggère plein de trucs. Bon, non mais, alors écoutez, il y a plein de choses qui m'ont plu. Vous savez que moi dans mon émission, je me fie pas à la playlist, mais il y a des recoupements, évidemment. Et j'ai choisi Pomme, et les Sequoia. Je vais vous dire en deux mots pourquoi, là, vraiment, j'ai pas ma casquette professionnelle, je vous parle vraiment comme un fan. C'est-à-dire que j'étais il y a quelques années à un festival où il y avait plusieurs musiciens artistes un peu parrainés par le FER, qui est une organisation qui développe les jeunes pousses, comme on dit, et j'ai été scotché parce qu'elle est arrivée toute seule, toute frêle sur scène, avec juste une guitare électrique, et elle chantait une chanson qui s'appelait Les Failles. Ça m'a vraiment fait penser au début de PJ Harvey. Ça avait cette même intensité à la fois timide et pleine d'autorité, et très jeune comme ça. Enfin, j'ai été ébloui, et voilà, je pense que ça s'imposait de commencer par elle. Enfin, de mon point de vue, hein, Laurent, vous savez, moi, en tant que grand Manitou, Mufti et tout ça.
Je le partage, votre point de vue.
Ah, vous avez raison.
Merci, mon éminence.
Merci, au très cher.
À demain.
À demain, Laurent.
Avant, la rivière a séché. Avant que tout soit emporté. Je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Tout soit emporté. Je veux retourner dans la...
marché dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.
Barbara Carlotti et Arthur Ashe sont nos invités inspirés ce soir de Côté Club. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Car tous les deux, vous avez été des voix France Inter 2013-2014 pour Barbara Carlotti, 2016 pour vous en Dr Love, Arthur Ashe. C'était une idée de Didier Varro, hein, à l'époque.
Absolument.
Il voulait entendre, faire entendre des voix d'artistes à France Inter, prendre notre place, bravo.
Plutôt, il nous a ouvert une voie. Je crois qu'il avait fait quelques émissions d'été comme ça avec des chanteurs, des musiciens. Et puis, moi, quand il m'a proposé une quotidienne, j'ai eu très très peur. Au début, j'ai dit non. Ça me paraissait complètement insurmontable de m'attaquer à ça. Et effectivement, de pas avoir de légitimité de journaliste pour le faire, ne pas prendre votre place, hein, Laurent.
J'étais pas là à l'époque. Vous aviez toute l'attitude.
Oui, vous étiez ailleurs. Je vous connaissais déjà. Et voilà. Et c'est vrai que, en même temps, c'était hyper excitant. Je sais pas pour toi, Arthur, mais moi, ce qui était hyper excitant, c'était tout à coup d'avoir un moment d'antenne pour partager la musique qu'on aimait et aussi toute la justement dans toute son étendue, c'est-à-dire aussi je pense que quand le public nous perçoit aussi d'une certaine manière avec notre musique, mais en fait on aime beaucoup plus que ça en tant que musicien, et pour moi c'était l'immense plaisir, c'était ça.
Et pour vous, le plaisir, c'était lequel alors, Dr Love?
Moi, j'ai absolument adoré cette expérience. Alors, Dr Love, c'était une séquence que j'avais fait
très marquante.
Dr Love, où j'avais d'ailleurs un duo pataphysique avec Catherine, qui était très chouette. Ouais. Moi, j'ai adoré cette expérience parce que je trouve que la radio, c'est vraiment, ça peut produire beaucoup d'intimité, en fait. J'adore l'intimité. C'est vrai que quand t'allumes une télé dans une pièce, par exemple, ça produit pas de la poésie, ça produit du bruit, de la lumière, tout ça. Alors que la radio a cette qualité de pouvoir produire de la poésie dans une pièce. Et voilà, on a fait, je pense, avec Barbara, le même genre de choses, atypiques. Moi, j'ai raconté des histoires, j'ai interviewé des gens, j'ai fait des montages d'interviews, donc je suis quand même passé de l'autre côté de l'écran ou de je sais pas quoi. Et puis aussi, ce plaisir de faire découvrir des musiques, mais c'était un exercice quand même très, très exigeant, hein, vraiment. Ouais.
Mais c'est vrai que il y a ce côté dérive en fait de la radio, de fait vraiment à la fois on est très proche des gens, parce que moi je recevais des messages des auditeurs aussi pour me dire parfois ils aimaient, parfois ils aimaient pas, parfois ils comprenaient rien ce que je racontais, puis parfois ils adoraient le côté cosmique justement que je voulais donner, le fait de dériver dans l'espace et aussi de m'attaquer à des sujets qui étaient voilà, il y a de l'eau sur Mars, en même temps il y a des chansons qui parlent de l'eau, quel lien on peut faire entre les deux, passer un morceau, leur parler directement, et puis faire des expériences. Je crois que moi, ça m'a permis de faire des expériences aussi avec
plein d'expériences sonores avec des musiciens. Ouais. Vous passiez combien de temps pour réaliser ces émissions qui étaient montées, qui étaient réalisées? Vous étiez en plus en quotidienne.
Ah, moi, j'étais en quotidienne. Je crois que j'ai utilisé absolument tout ce que je connaissais et que j'aimais pendant les 5 premiers mois. Et puis après, je passais. En fait, Didier m'avait dit que j'avais quand même conçu une hebdomadaire en quotidienne.
Exactement.
En fait.
Quand on écoute encore, on a réécouté avec Marion et les autres. On se dit,
la sélection des extraits de films, les interviews. Enfin, je me suis aussi payé le luxe et le plaisir d'interviewer des musiciens que j'adorais, Sébastien Tellier, Philippe Catherine, Christophe. Enfin, du coup, c'est vrai que ça demandait une préparation infinie, quoi. Bon, j'ai beaucoup donné cette année, j'avoue.
Tu restes que comme si c'était un métier presque.
un nouveau métier.
Mais vraiment, ouais. Moi, j'en rêve encore. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que je pense à faire de la radio de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai une playlist où il y a plus d'une centaine de morceaux, de tous les morceaux que j'accumule pour le jour où je ferai de la radio et que je veux passer.
Moi, ouais, j'ai des idées d'émission.
C'est un appel.
C'est un appel du pied.
Ah, bah ouais.
Vous étiez parfois en direct tous les deux, de toute façon. Moi, non.
Non, vous jamais, Arthur. Ouais, ouais. Mais vous, Barbara,
moi,
vous
j'étais
étiez...
en direct tous les soirs, moi. Ouais, c'était aussi ça, le côté excitant.
Et ça, justement, par rapport à quelqu'un qui monte sur scène faire un concert, être en direct tous les soirs, le moment où, ça, où le voyant rouge s'allume, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là pour vous?
Il y a quelque chose de plus intérieur, parce qu'on est quand même dans le studio qui est ouaté. Il y a quelque chose de très confortable aussi. Et puis, il y a cette intimité qu'on doit nouer avec l'auditeur de l'autre côté, qu'on imagine dans sa cuisine, dans sa chambre, dans sa voiture, etc. Il y avait le trac, et puis le trac de bafouiller ou d'avoir des idées de pas pouvoir les développer. Moi, c'était plutôt, j'ai l'impression d'avoir appris une sorte de maîtrise du temps que j'avais pas du tout avant. C'est-à-dire, quand il faut parler 30 secondes ou une minute.
Ouais.
Et alors, au début, je crois que je disais mes annonces hyper rapidement de peur de dépasser le générique de début, etc.
Vous écriviez tout?
J'écrivais tout.
Pour les entretiens aussi?
J'écrivais tout pour les entretiens, et au début j'étais pas hyper à l'aise avec les entretiens, parce que entre passer de la lecture des questions qu'on veut poser et là où nous emmène l'interviewer, c'était extrêmement dur. Je crois que le premier interview que j'ai fait, c'était avec La Femme, le groupe La Femme. Je crois qu'ils avaient fumé un peu des joints avant. Enfin, ils s'étaient mis dans un état. Et moi, je ne contrôlais rien. Et je regardais derrière la vitre Anne Weinfeld.
Votre réalisatrice.
Et Alexis Goyer. Et j'en pouvais plus. Je savais pas où j'allais. Après, j'ai pris le pli. Et je crois que l'interview que j'ai préférée, c'était avec Sébastien Tellier, qui a été tellement sincère, généreux, enfin, qui me racontait des choses, enfin, il y avait quelque chose de merveilleux à parler avec lui, et tout d'un coup, enfin, et je crois que c'était la fin de l'année, hein, j'avais réussi à, ça y est, à me sentir à l'aise, à pouvoir échanger, à en même temps pouvoir reprendre là où je voulais, et tout ça, le couper, oser le couper, quoi. C'est aussi ça, on ose couper la personne qu'on a en face.
Vous, Arthur H, vous aussi, vous avez fait des entretiens?
Ouais. Moi, j'ai écrit des histoires parce que je voulais que ça commence à chaque fois par une espèce de conte, parce que j'adore quand les gens racontent des histoires à la radio avec de la musique derrière, avec tout un climat sonore. Donc ça, c'était très écrit. Après, il y avait des interviews qu'il fallait vachement monter, quoi. Bon, ça, Lilian, il m'aidait beaucoup parce que il avait un sens du montage que j'avais pas forcément du rythme. Mais on a coupé beaucoup, hein. C'était vraiment de la manipulation de l'autre, parce que tu peux pas retranscrire toute une conversation comme ça d'une manière libre, parce que c'est pas du tout pareil. Faut que ça ait un impact, tout ça. Donc j'ai interviewé Jodorowsky, Pierre Richard, Brigitte Fontaine, et je me rappelle plus.
À chaque fois, des personnalités assez extrêmes en plus, hein. Brigitte Fontaine, c'est pas toujours facile en entretien. Moi, j'ai adoré. L'expérience a été formidable que j'ai eue, mais quelquefois, ça peut être difficile avec elle. Mais non, en même temps, c'est le voix que vous avez travaillé.
Je la connais bien. Je suis allé chez elle, et puis c'était vraiment une conversation très intime. Et puis, je l'interrogeais sur des objets qu'il y avait autour d'elle et tout ça. Donc, c'était quelque chose, justement, peut-être que c'était un interview spécialement intime de Brigitte, je pense.
Et là aussi, vous écriviez tout, ou alors vous laissiez porter par l'instant?
Non, là, avec Brigitte, j'avais peut-être préparé quelques questions, mais c'était vraiment sur l'instant. Ouais.
Est-ce que vous aviez signé vos génériques?
Oui, moi j'ai signé, bien sûr. Bah, c'était aussi ça, plaisir, le gros kiff surtout, parce que c'est vrai que moi c'était un fantasme d'avoir un générique à la radio, vraiment quoi. J'étais même jalouse parfois de musiciens dont j'entendais qu'ils avaient été extraits de leur musique. Je me suis dit, mais pourquoi?
Et voilà ce que ça donne.
Mesdames, mes aliens, messieurs, bonsoir. C'est Barbara Carlotti, chanteuse interstellaire, qui vous parle en direct de la plateforme de communication orbitale de France Inter. Nous flottons actuellement dans l'hyperespace de la musique.
Espace, frontière de l'infini.
Sur quelle planète, dans quelle galaxie notre astronef sera-t-il propulsé aujourd'hui, capitaine?
Spunk, hier soir, après la visite de la planète Douleur, je me suis sentie toute chose, toute chaude, toute drôle. J'avais besoin d'une bonne correction.
J'avais besoin d'une bonne correction.
J'avais oublié ça.
C'est bien, hein, ça.
Non, mais ouais, ça marchait très très bien. Le générique marchait très bien. C'était qui la voix qui apparaissait à un moment donné?
C'était dans Star Trek, en fait.
Ouais.
Bien sûr, il y avait. Bah, c'est aussi ça, c'est-à-dire il y a des sons qui restent, des choses qu'on a vues, entendues et qu'on a vraiment envie de mélanger avec d'autres choses, de la musique, et puis de reconstruire des récits. En fait, je crois qu'il y a un truc comme ça avec des voix. Moi, j'écoutais beaucoup quand j'étais gamine, La Grosse Boule, l'émission d'Ariel Wiesmann et d'Edouard Baird sur Nova. Il faisait vraiment mais n'importe quoi. Mais il mélangeait des. En fait, il faisait du cut-up sonore et ça me fascinait.
Alors, à partir de faire des récits, à partir de voix, eh bien, on va continuer. Je voudrais vous faire entendre quelques voix qui ne sont plus à l'antenne et qui ont incarné la musique sur France Inter. C'est Stéphane Le Guenec qui a imaginé ce montage d'archives. Vous allez reconnaître Bernard Lenoir et ses Black Sessions, Vali bien sûr, que j'embrasse à la tête de Coming Up, André Manoukian qui partait en live, Isabelle Dordain qui nous a quitté cette année, elle était sur le pont des artistes, un électron libre qui porte encore aujourd'hui la musique ici à Radio France, Didier Varro, et bien sûr Jean-Louis Foulquier pour Pollen.
Gilles Bermond, Jean-Louis Foulquier, c'est Pollen en direct de La Rochelle, au pied des remparts, à l'occasion des premières francopholies. Bon, on va aller faire un tour du côté de la Maison de la Culture maintenant, où Rita Mitsouko est en train de jouer en ce moment là même, et c'est le triomphe.
La jalousie te crèvera le cœur, tu attends.
Claude Duclos, le directeur de la Maison de la Culture de La Rochelle, revient du spectacle à l'instant.
Oui, moi j'ai jamais vu la salle comme ça.
Ouais.
Ça fait plaisir parce que les gens trémoussent, dansent dans un lieu qui n'est pas fait pour ça, mais tant mieux. Et surtout, Rita, elle est superbe.
Ouais.
Superbe.
Dans le noir. Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir, Studio 105.
Bonsoir et bienvenue dans un partant live qui risque d'être encore plus brûlant que d'habitude.
Merci et bonsoir à tous et bienvenue au studio Charles Trenet, lieu de musique vivante et sans frontières. Le pont des artistes, c'est tous les samedis jusqu'à 22h sur France Inter.
Camille, premier album. Ça vous fait pas peur là, ce qui se passe en France au niveau de la diffusion de la chanson et tout ça? Parce qu'il y a France Inter, mais enfin, bon, il n'y a pas France Inter. Mais...
Non, moi je vis mon truc.
Vous ne posez pas du tout de questions, quoi. Vous faites votre chemin,
jamais,
c'est tout.
Non, jamais, je ne pose jamais de questions.
Faites attention à ce que vous dites. Camille, un petit coup de Sciences Po, mais enfin bon, on oublie ça très vite, hein. Sciences Po, ça...
J'essaie d'oublier.
Ouais, oui, bon, nous aussi, ça n'a strictement...
Ah bon, mais moi, ça aurait été mon rêve de faire des études. Je les vois cracher là-dessus. Moi, j'aurais aimé.
Vous auriez été excellent en dissertation.
Bien, 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 Camille.
Soit
électron libre entre amour et violence, ce soir avec Sébastien Tellier. Vous avez rencontré sur votre chemin la moitié de Daft Punk, Guy-Man. Comment vous avez fait pour lui faire mouiller les machines?
C'est vrai que je voulais que l'album, comme c'est un album sexuel, que ça soit un album aussi de couple. C'est-à-dire, je voulais pas créer un album masturbatoire où je suis seul face à ma musique.
Vous êtes en train de dire que vous avez révélé le point G à Guy-Man?
Voilà. Enfin, c'est comme si j'avais demandé Guy-Man en mariage et qu'il avait dit oui.
Ça s'appelle full sentimental.
C'est fou, non?
Jean-Louis Foulquier, on vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de France Inter.
Très bonne soirée sur France Inter. Stay tuned!
Soyez beau, soyez vivant et surtout excessivement sentimentaux. Ciao!
Salut à tous, bonne nuit, caresses et bis à l'œil. À demain.
J'adorais ce bise à l'œil. Moi, je le prenais vraiment pour moi quand j'étais auditeur à cette époque-là. Je voyais rire, notamment avec ce générique de Pollen, quand vous l'avez entendu, Barbara Carlotti.
C'est toute une époque, ouais. Ce saxophone, la voix de Jean-Louis Foulquier. C'est vrai que bon, ça fait un moment mais que j'avais pas entendu ça. Je me suis dit, ouais, vraiment, on est passé à autre chose aussi en termes de rythme.
Et oui, on est entré dans la nuit, oui, Arthur H.
Oui, c'est une vraie Madeleine de Proust. Hein. Foulquier, il était là pendant tellement longtemps. Là, Isabelle aussi.
Isabelle Dordain, oui.
Elle nous a tous accompagnés tellement longtemps. Moi, j'ai des tonnes d'enregistrements chez Isabelle. C'est vraiment des gens qui ont accompagné concrètement notre vie de musiciens et d'auditeurs. Quoi.
Ah oui, ouais. Ils vous ont interviewé. Isabelle Dordain, je crois que la première interview...
Oui, ma première interview, c'est chez elle. Ouais. Ouais. Mais j'avais peur d'elle, moi, vraiment.
Pourquoi?
Parce que c'était impressionnant. En fait, moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup la radio. Et de voir déjà... En fait, de découvrir le visage... À l'époque, il n'y avait pas tout le temps des écrans partout. Et en fait, la radio, c'était des voix. Et ces voix, on s'était fait des images dessus. Moi, je m'étais fait... elle était quand même hyper... Il y avait une autorité. Elle en imposait, quoi.
Même dans sa voix,
de mener les entretiens, quoi. Et donc, moi, j'avais très, très peur, hein, en fait. Mais j'étais ravie aussi, parce que pendant des années ensuite, elle m'a soutenue, quoi.
Arthur Hage.
Moi, j'étais plutôt terrorisé par Foulquier.
Oui,
c'est un peu avant. J'avais vraiment la tremblotte, en fait, au début. Quand j'entends. Alors qu'Isabelle, je répondais toujours des grosses conneries à ce qu'elle disait. Elle riait de tout. Elle était très sympathique.
Oui, c'est vrai qu'elle
tu pouvais vraiment répondre n'importe quoi. Elle était étonnée, elle riait, c'était chouette.
Tout de suite, on retrouve un duo de France Inter, deux experts de la scène rap, Eric et Quentin. C'est à la fois l'énergie et la joie du grand urbain Marion.
Eric et Quentin.
Oui, et ce qui est formidable, c'est vraiment...
Oui, bah, tout à fait, c'est de les entendre parler d'une musique avec laquelle ils ont grandi. Alors je sais que Quentin est DJ, il assurait chaque semaine un DJ set sur Move. On leur a demandé, comme à Mishka, de programmer un titre en playlist ce soir sur France Inter.
Eric et Quentin, les Placides Musos du Grand Urbain.
Salut Laurent.
Bonsoir Marion.
Voilà, très bon lancement. Nous, ce soir, on avait envie d'écouter Damso avec Morose, Eric.
Oui, Damso qui est quand même l'artiste phare de l'année 2021 avec son album Calf Infinity qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler.
Ouais, et Morose, bah, si vous aimez le rap et le saxophone, c'est le bon morceau. À la fin, il y a une envolée au saxophone qui est très belle. Donc si vous aimez les slows des années 80, c'est parfait. Et surtout, Damso, c'est un des plus grands paroliers de la chanson francophone du moment. Donc faut écouter ça avec attention.
Donc si vous voulez bien, on va tous danser. C'est le slow maintenant avec Damso et le titre Morose.
Lourd. Je suis tellement loin. C'est parti pour quelques heures. Écrire sur le monde. Exilé dans simulateur. Près des couleurs, trop sable en mouvement. Foncez, trop près, c'est de plus penser. Cerveau dansé, donc à débrancher. Sans te défenser, plus rien de sensé. Sors de ma tête, de bouger. Faut que je me teste, que je l'ouvre. Ok. Trop de tes questions brusques. De pression, muscle, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, balle, oppression à ta restriction, blague. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le tringue, je te demande un minimum de respect. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des bras sur une compo. Moro. Une miche dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, hier. Yeah. J'écris sur tout ce que je pense, et j'écris sur tes son corps, hier. Yeah. Mais sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, de la manque douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vie que tu me suis. Tu comptes sur mes économies, t'es ma que pour aujourd'hui. Tapis, j'ai fait doubler la mise de peur. Bientôt j'abandonne le vice de pas loin. J'prends vice et mer. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. Balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'en vais tango. J'balance des bras sur une compo. Moro. Je t'entends tes billets là.
soirée saxo ce soir dans Côté Club après celui de Foulquier, le saxo de Damso. Retour plateau avec nos invités aux voix de radio, Barbara Carlotti, très cosmique, fantasy, Arthur H. On va revenir sur les cartes blanches dans quelques instants, mais tout de suite, Marion, vous êtes allée à la rencontre d'un type qui a signé de son nom une nuit blanche sur France Inter, Bernard Lenoir.
Bernard Lenoir, Laurent, ouais, c'était une voix, une économie de mots, mais une richesse de son dans C'est le Noir, mais aussi dans ses mythiques Black Sessions. Bon, moi, j'étais une fidèle spectatrice, auditrice. Il y en a eu 330 quand même, hein, entre 92 et 2011. J'ai dû assister à au moins à 70 Black Sessions, avec à chaque fois le sentiment comme ça de vivre un moment de musique pas comme les autres. Bonsoir Bernard Lenoir.
Bonsoir Marion.
Alors la radio a été votre moyen d'expression pendant plus de 35 ans, on va en reparler avec vous. Mais alors que ce média fête ses 100 ans en 2021, est-ce que vous vous rappelez quel auditeur de radio vous étiez ?
Oh, très bien, mais ça a commencé comme beaucoup de passionnés pour la musique, ça a commencé avec la radio. À l'époque j'étais encore en Algérie, donc en Algérie écouter de la pop et du rock c'était assez difficile, donc il fallait bien sûr se pencher sur les radios venues d'ailleurs. Et moi j'étais principalement intéressé par la station qui était destinée au GI en garnison en Allemagne à l'époque, c'était le Luxembourg anglais, oui. Station of the Stars. C'était que de la pop, c'est là que j'ai découvert Presley, enfin tout ce qu'on peut imaginer à partir de 1955-56, voilà. Et comme beaucoup de mes auditeurs par la suite, bah, j'écoutais ça sous l'oreiller, attentivement, alors que les parents croyaient que je dormais, que je me reposais pour être d'attaque pour le lycée le lendemain, alors que j'écoutais la radio jusqu'à pas d'heure dans la nuit.
Première fois à la radio, Bernard, c'était en tant que programmateur musical, et ça c'était avant d'avoir votre propre émission.
Le premier programme que j'ai fait, c'est pour Foulquier. À l'époque, Jean-Louis était le matin, il faisait le 7-9. Et je me souviens avoir programmé un titre de Gainsbourg, qui était 69, année érotique. Et on m'avait dit, mais non, mais ça n'a pas la tête à 7h du matin, passer ce genre de truc à la radio. Voilà, je savais pas qu'il fallait prendre des précautions encore à l'époque. Et après, oui, effectivement, c'était de la programmation, mais... J'ai eu beaucoup de chance, parce qu'avec José, c'était spécial. La première heure du pop était essentiellement consacrée à la musique, donc on pouvait se lâcher, programmer des tas de choses, notamment beaucoup d'imports, des disques qu'on trouvait pas en France, et c'était un plaisir de faire ça. Après, José prenait l'antenne, et alors là, il fallait se battre pour lui clouer le bec et passer un disque, c'était plus compliqué.
Alors la musique dans la radio, comme dirait Jacques, ça a été l'affaire de votre vie, hein, essentiellement sur France Inter avec C'est le Noir. Et puis il y avait ces fameuses Black Sessions pendant 20 ans au mythique Studio 105, 330 Black Sessions. Vous avez été un des précurseurs, Bernard Lenoir, des concerts live à la radio. Là aussi, qu'est-ce que vous cherchiez en introduisant cette dimension live ?
Parce que je pensais que c'était important, mais bon, il y avait des directions successives à l'époque des années 70, jusqu'au milieu des années 70, pensaient que la radio n'avait pas de vocation à faire du live, à faire du concert. Il y avait des salles pour ça. Il y avait évidemment la musique classique sur France Inter avec l'orchestre de Radio France. Il y avait un peu de jazz avec André Francis le week-end. Mais il n'y avait pas de pop, il n'y avait pas de rock parce que je crois me souvenir qu'il y avait eu un essai et que ça, c'était pas très très bien passé. Il y avait une petite bousculade avec les services de sécurité. Il y avait une trou de pété dans le hall de la maison de la radio. Et on avait l'idée que c'était blacklisté, que plus jamais de pop et de rock à la maison de la radio. Donc il a fallu se battre pour imposer ça. Donc j'ai commencé par enregistrer des concerts à l'extérieur et à les diffuser. Ensuite, à pouvoir les diffuser, vu l'horaire que j'avais le soir à 21h, les diffuser en direct. Et ça a été une grande première. Et puis ça a été banco, à un moment donné, j'ai eu la possibilité de faire ces sessions, mais il a fallu attendre 1992.
La première Black Session, donc, c'était 92, avec un jeune groupe français, Welcome to Julian, je me rappelle, j'y étais.
Exactement.
La dernière, c'était en 2011, avec le groupe américain Dark Dark Dark. Alors pendant 20 ans, vous avez accueilli une bonne partie de la scène indépendante musicale, anglo-saxonne mais aussi francophone. Quel restera votre souvenir le plus marquant ?
Oh, bah, je pense que arriver à avoir de Cure à la maison de la radio, ça a quand même été un exploit, malgré des très très bonnes relations que j'avais avec Robert Smith depuis longtemps, puisque c'est lui qui m'avait offert le générique de Rockline à l'époque où j'étais aux Enfants du Rock pour mon émission sur Antenne 2. Alors, bah, sinon, je pense à XTC, qui était un groupe assez fameux
aussi,
dans les années 80. On avait déjà fait un concert avec Andy Partridge au Palace. Il avait une phobie du concert, quoi. Et au bout du deuxième titre, il était parti, quoi. Il avait lâché le concert au deuxième morceau. en plein direct au Palace. Donc ça, ça m'avait marqué quand même. Et puis tous ceux qui étaient là, évidemment. Ou David Byrne des Talking Heads, quand on était... Là, on n'était pas en session, on était en concert au Palais des Sports, je me souviens, un truc énorme. Et juste avant le concert, en montant sur scène, il voit un câble qui passe comme ça sous l'escalier qui l'amène à la scène. Il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et on lui dit « Il y a la radio qui retransmet le concert en direct. » Et il dit « Il n'en est pas question. » Il prend le câble, il le débranche.
C'est pas
vrai. Et voilà. Et moi, je me retrouve en direct au Palais des Sports pour un concert des Talking Heads. Et plus de,
oui, parce que vous étiez tout le temps en direct, enfin, en plus.
Tout ça, oui, parce que le promoteur n'avait pas prévenu David Byrne qui avait la radio ce soir-là pour retransmettre le concert. Quoi. Je comprends qu'il ait eu cette réaction, quoi, mais bon, voilà. C'était les aléas du métier.
Bernard Lenoir, voilà. Vous avez toujours été un homme de direct. Aujourd'hui, la radio, elle se réécoute, elle se podcast. Ça vous inspire quoi?
Je pense que c'est le fait qu'il y ait la possibilité de revenir sur des choses déjà diffusées grâce au podcast. C'est pas mal quand même. Enfin, c'est assez contradictoire et paradoxal ce que je vous dis, parce que j'ai toujours pensé avec les anciens, notamment quand on en parlait avec les gens qui m'ont appris à faire de la radio, que ce soit José, bien sûr, Claude Villers et compagnie, Bouteillé. Et on se disait, ce qui est magique avec la radio, c'est que ça part dans les terres et que c'est fini, ça disparaît, ça reste pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours... fait marche arrière quand on m'a proposé de commercialiser les Black Sessions. Et Dieu sait s'il y a eu des pressions pour le faire. Mm-hmm. Je disais non, le concert, la radio, c'est ça. Si t'as la chance d'être derrière ton poste, ben t'écoutes, ça te plaît, t'es transporté, il se passe quelque chose, c'est magnifique. Et puis hop, c'est fini, on n'en parle plus, ça a disparu. Et le fait qu'on puisse revenir dessus, c'est une autre histoire, mais pourquoi pas aussi. Quoi. C'est un outil moderne et on va pas rechigner, quoi. Ça existe, c'est là, et tant mieux. Quoi.
Merci beaucoup, Bernard Lenoir. À très bientôt dans la vraie vie.
Bon, c'est moi qui ai été ravi de causer dans le poste une nouvelle fois. Allez, ciao, ciao.
Retour donc au studio 105 de la Maison de la Radio et de la Musique. Nous sommes le 23 janvier 2008. La Black Session de Cat Power va commencer. Normalement, Michel Soulier, la réalisatrice, supervise le live derrière la régie, derrière la vitre de la régie. Bernard Lenoir est au micro, mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu.
Je sais pas si je vais faire l'heure comme ça, à vous raconter plus sa vie que la mienne, bien sûr. Mais je ne sais pas du tout ce qui se passe. En plus, Michel Soulier a disparu. Michel Soulier, qui était ma réalisatrice et qui cajole, qui bichonne, qui s'occupe de Chan depuis le début de l'après-midi. Et elles ont disparu toutes les deux, donc je m'inquiète doublement. Mais je crois que cette fois, c'est la bonne. Je vois les musiciens qui arrivent. Et la voilà, tout de blanc vêtu. Où était-elle donc passée? Elle a deux tasses à la main. Elle descend en hésitant les quelques marches qui la séparent de son micro. Deux tasses de thé. Ah oui, le temps change. Et la voilà qui s'installe. Elle m'aura quand même fait faire le plus long tunnel de ma carrière. Pantalon noir, chemise et chaussures blanches. Elle remonte son collant, très décontracté. Et c'est parti.
Voilà, c'est la Black Session de Cat Power. Très décontracté aussi, Bernard Lenoir, moi, je trouve, quand même.
J'ai dû flipper comme un malade. Un tunnel de combien de temps, en fait?
Ça a duré plus de environ 5 minutes, 5-6 bonnes minutes, je crois.
En ne sachant pas si elle allait arriver ou pas. Oui, Arthur H.
En même temps, c'est des incidents comme ça qui font des souvenirs et qui fabriquent de l'excitation aussi.
Exactement, exactement.
Une référence aussi pour vous, Barbara Carlotti et Arthur H. Bernard Lenoir?
Moi, pas spécialement, mais...
Non, un peu en fait. Je sais pas à cette époque ce que j'écoutais. Non, pas spécial. Enfin, de temps en temps. En fait, moi, la radio, ça a été plutôt de temps en temps. Je tombais sur des trucs, je découvrais des trucs. Je me demande si j'ai pas découvert Dominica quand même dans son émission.
Certainement.
Je pense que c'était ça. Mais c'était pas des rendez-vous forcément réguliers pour moi. En plus, c'était des époques où j'étais assez jeune et je sortais plutôt. Enfin, j'étais plutôt dehors qu'à l'intérieur.
C'est une référence, en tout cas, pour Mathieu Conquet, qui remet le son chaque samedi sur France Inter. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Laurent.
Vous avez écouté ce qui s'est dit sur Bernard Lenoir? Vous avez écouté sa voix, un commentaire peut-être?
J'ai tout écouté, c'était assez génial de le voir meublé. C'est l'angoisse à la radio, hein, évidemment, de ne pas savoir ce qui se passe. Tout a disparu, l'invité n'est pas là, c'est le cauchemar.
La réalisatrice ou le réalisateur se bat, horrible.
Ouais, mais c'est super à réécouter. Du coup, on a vraiment envie de suivre le concert. Et puis, je suis comme vous, je le trouve assez détendu. J'espère que je serai aussi cool.
Quand ça vous arrivera. Alors, je vous ai demandé de choisir un moment de radio lié à la musique live. Quelque chose qui vous a marqué. Et bien sûr, c'est lié à Bernard Lenoir pour vous. Mathieu.
Et oui, forcément, c'est pas très original. Alors, moi, ma culture musicale, elle s'est faite beaucoup par la radio, et parce que j'ai écouté plein de radios différentes. Alors, évidemment, il y a Bernard Lenoir, mais avant ça, moi, quand j'étais ado, c'était Fun Radio, Doc Eddie Fool, vous voyez, ce genre de choses. J'étais fasciné par Maurice sur Skyrock, qui terrorisait les auditeurs, et qui me fascinait. Il y avait Cade Olivier sur WFM, qui faisait des fictions et hurlait de rire. Puis, Nova, ça a été énorme, voilà. Mais bien sûr, Bernard Lenoir, les Black Sessions, c'était un passage obligé, notamment Radiohead, Dominica, les Tindersticks. Mais alors, le moment que j'ai choisi, moi, chez Bernard Lenoir, c'est un concert assez récent, hein, je crois que c'était en 2007, c'est le groupe Electrolène, dont Mishka Assayas m'avait parlé avec passion dans une émission. Electrolène, c'est un groupe de filles de Brighton. Et moi, j'étais tombé par terre en découvrant leur album The Power Out, qui était sorti en 2004, c'est produit par Steve Albini. Pour vous donner un peu l'idée, Steve Albini, c'est un type qui avait travaillé avec Nirvana, les Pixies, PJ Harvey, et voilà, qui travaille d'un coup avec des jeunes filles que je connaissais pas du tout de Brighton. Je me dis, dingue, qu'est-ce que c'est? Et c'est un rock qui est vraiment très simple, brut, et en même temps, c'est hyper sophistiqué. C'est un peu entre le Velvet Underground et un groupe de rock progressif avec des bourdons, des répétitions lancinantes. Voilà, elles ont gardé toujours quelque chose de très brut sur scène. Ce qui faisait que parfois, il y avait des concerts qui étaient ratés. C'était pas des techniciennes hors pair, mais ça s'avérait souvent exceptionnel. Alors, merci de me faire le cadeau, de me permettre de réentendre un concert. Il parlait, Bernard Lenoir, de la réécoute. Et c'est vrai qu'on sait pas toujours si nos souvenirs de radio, ils sont enjolivés avec le temps. On a peur de confronter ces souvenirs merveilleux avec un simple document. Alors, on va écouter le morceau. Je crois que c'est To the East. Elles vont nous emmener à l'Est, Electrolène. Et pour la petite histoire, la chanson, elle parle de, c'est un couple qui est séparé, visiblement. Puis il y en a un des deux qui dit, tiens, qui imagine que l'autre l'appelle et lui dit, tu sais, maintenant j'habite à Gdansk, c'est loin, mais t'as qu'à prendre un train. Prends ce train, rejoins-moi. Évidemment, on ne sait pas si ces mots, ils sont vrais ou s'ils sont rêvés. Hein, comme à la radio, parfois, on ne sait pas si on a rêvé. Alors, on va vérifier ça avec Electrolène. C'était au studio 105, une Black Session, en 2007, juste avant que le groupe ne se sépare, d'ailleurs.
Merci Mathieu, merci.
Voilà donc le post-rock savant. Tout en accélération et crescendo irrésistible de ces demoiselles. Electrolène. Un groupe formé en 98 par Verity Sussman et Emma Gaze en Black Session et en direction inter, bien sûr.
Qui est là?
Oui, bonjour docteur, c'est Jean-Philippe.
Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir. Ah voilà, je vous appelle parce que c'est à propos de ma femme surtout. Enfin, moi j'ai une femme qui est merveilleuse, enfin qui est sublime, qui réussit tout, que que tout le monde admire.
Waouh, quelle chance vous avez, Jean-Philippe. C'est magnifique.
Oui, enfin, c'est une chance, mais c'est pas une chance aussi, parce que, en fait, moi, à côté, j'existe pas. J'existe plus.
Est-ce que vous connaissez Mohamed Ali, Jean-Philippe?
Oui, quand même. Bah oui, oui.
Ok, bon. Pas plus que ça.
Non, pas plus que ça, en fait.
Ok, bah, c'est parfait, Jean-Philippe. Vous êtes neutre. Vous êtes une page blanche. Je vais vous raconter une histoire. Vous êtes Mohamed Ali.
Et la suite est à redécouvrir. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose?
Ah non, parce que ça, c'était vraiment de l'impro. Du coup, j'ai aucun souvenir, quoi. Mais on a fait des trucs vraiment délirants avec Dr. Love. Ouais. Chaque fois, ça commençait doucement et ça montait, puis ça finissait vraiment très, très haut en vrille, quoi. Ouais.
Vous aviez des cartes blanches, donc autant vous aviez, Barbara Carlotti, une émission concept, on va dire, Cosmic Fantasy. Vous, carte blanche, vous aviez refusé le concept?
Le concept.
C'est-à-dire avoir une émission cadrée qui va à chaque fois dans la même direction?
Ah non, non, moi c'était très conceptuel, mon émission.
Ah non, conceptuel, ouais. C'est pas la même chose.
J'avais fait, je crois, 8 émissions. C'était juste une série de 8 émissions qui était une carte blanche, mais dans la carte blanche, j'avais fait bien mes épisodes, mon rythme. Moi j'aime bien les séquences qui reviennent, comme ça. Donc il y avait Dr. Love à la fin, il y avait l'histoire au début, il y avait l'interview, il y avait tout ça, quoi. C'était assez écrit, ouais.
Le générique, vous l'aviez signé aussi?
Ouais.
Comme pour Barbara, c'était le...
Oui, c'est vrai que j'avoue que c'est un fantasme, bien sûr, d'écrire un générique.
Comment vous choisissiez vos sujets l'une et l'autre?
Ça dépendait de plein de choses. Comme je le disais tout à l'heure, ça pouvait aussi être émotionnel. C'est-à-dire, si j'avais envie de parler de douleur un jour, je faisais toute une émission. C'était la planète douleur et j'allais faire des découvertes. Ou parfois, il y avait des découvertes dans l'espace qui m'intéressaient. Et les anneaux de Jupiter, par exemple. Et j'avais envie d'en parler. Donc, j'avais envie de voir s'il existait des chansons autour de ce thème-là. Ça dépendait vraiment... C'était un peu selon l'humeur aussi, et c'était ça qui était génial dans une quotidienne.
Dans une quotidienne, c'est ça.
De pouvoir suivre. Après, c'est aussi tout ce que le cosmos peut nous renvoyer d'associations avec la musique, qui aussi créait des thématiques en fait pour chaque émission.
Et vous, Arthur H, pour le synopsis de vos émissions?
J'écrivais des contes, ce qui a donné lieu à des chansons d'ailleurs. Après j'ai repris ces textes là et je les ai transformés en chansons.
C'est-à-dire que la radio a eu un impact sur la carrière du chanteur et musicien compositeur.
Ouais, bien sûr, parce que pour moi c'est quand même très similaire, quoi. C'est raconter des histoires avec du son en fait, donc c'est quand même vraiment la même famille, quoi.
Vous aviez des modèles de choses que vous aviez entendues à la radio, enfant, peut-être?
Plein de choses. J'étais marqué aussi par Radio Nova. Je me rappelle des débuts de Radio Nova qui étaient absolument délirants. C'est-à-dire que... Alors, j'étais vraiment petit, hein, mais je me rappelle de jours entiers de montage sonore, en fait. Il n'y avait pas de voix au début. C'était juste des montages absolument chaotiques et délirants de toutes sortes de musiques. T'avais l'impression de mettre une fréquence sur l'espace et d'entendre des sons qui venaient d'ailleurs. Donc ça m'est vraiment frappé. Puis après, peut-être des trucs aussi cons que Pierre Belmar, par exemple. quand j'étais tout petit, qui racontait ces histoires extraordinaires. Et quelque part, t'as ressenti tellement d'excitation avec cette voix qui t'emmène dans des histoires invraisemblables que finalement, t'as envie de reproduire ça. Donc moi, j'ai reproduit ça. J'ai fait du Pierre Belmar, tu vois, homéopathique dilué, surdilué, qui a rien à voir avec Pierre Belmar, mais avec cette empreinte invisible de Pierre Belmar.
Du Belmar pataphysique.
Ouais, du Belmar surnaturel, du Belmar psychédélique, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez appris en faisant de la radio qui vous a servi plus tard, pour vous, Barbara Carlotti? Vous parliez tout à l'heure du timing, c'est-à-dire le temps. Ça,
le sens du temps quand on parle. Moduler ma voix aussi beaucoup plus que ce que je faisais avant. C'est-à-dire, il y a même une émission où j'avais essayé de parler normalement, puis tout d'un coup de ralentir et de faire vraiment comme si j'étais ralenti, de faire des trucs comme ça. Et en fait, de m'amuser avec vraiment ce que c'était que ma voix, mais un peu sous toutes ses formes. Et puis aussi, moi, je trouve que la radio, c'est aussi le sens de convier des personnalités en même temps. Et donc, je conviais des musiciens. Enfin, j'ai fait une émission qui s'appelait Planète N'importe quoi, et c'était vraiment, on avait fait des parodies de numérologie, des parodies d'actualité, des parodies de débats qui s'interrompent au milieu, etc. Et pour moi, c'était vraiment genre. Comment on peut tester tous ces supports qui sont vraiment, enfin, tous ces l'idée de la petite forme en fait à la radio qu'on entend tous les jours, et comment nous on peut s'y coller et essayer de voir comment on peut faire ça. Enfin, pour moi, c'était un vrai apprentissage de la voix en fait, je crois.
Et pour voir, tu vois, qu'il y avait une voix déjà si repérable, identifiable, profond.
Ah, mais moi, je, comme je vous ai dit, je rêve de faire de la radio. Je veux absolument faire de la radio. Quand je serai vieux ou pas forcément dans une grande station, mais c'est difficile quand même parce que c'est un art. Il y a les places sont chères et tout ça. Ouais. Maintenant, il y a la radio digitale. J'ai un ami qui a monté une radio. Alors, il fait ce qu'il veut. Mais après, c'est le problème qu'il y a énormément de radios digitales qui sont incroyables, mais auxquelles on n'a pas accès. Contrairement à France Inter, on sait qu'on va mettre sur France Inter, on connaît tout ça. Mais j'espère quand même faire reproduire des émotions que j'ai eues. Je me rappelle, j'ai d'avoir un souvenir. J'étais en voiture dans la Drôme, j'écoutais FIP, j'écoute beaucoup FIP toujours. Et là, une musique vraiment incroyable qui me touche beaucoup. J'arrête la voiture, j'ouvre la porte, je regarde les étoiles. C'était un morceau qui durait 15 minutes, vraiment 15 minutes. Je me rappelle plus le nom du mec, mais je l'ai retrouvé après le morceau. Et j'ai écouté la radio comme ça, et tu sais pas ce que t'écoutes, c'est ça aussi la radio, c'est la découverte, c'est la surprise. Et moi, j'ai envie de reproduire ces émotions qui m'ont vraiment touché, quoi.
Marion.
Arthur H, vous parlez de radio digitale, on mentionnait les podcasts tout à l'heure avec Bernard Lenoir. Les podcasts, ça vous tente pas?
Si, c'est pareil, mais j'y pense beaucoup tous les jours.
Vous pensez
quand
beaucoup?
Quand je me rase le matin, j'y pense, ouais.
Et vous, Barbara Carlotti? Le format podcast?
Oui, bien sûr. Moi, je pense que de toute façon, enfin, je sais pas pour toi, Arthur, mais il me semble que quand on fait des albums et qu'on produit du son, il y a toujours cette idée que, pour moi, c'est de la mise en scène aussi sonore, quoi. Mmh. Et du coup, forcément, soit effectivement, enfin, en tout cas, même moi, pour moi, faire de la musique, c'est aussi m'intéresser à des sujets. Et donc, je trouve qu'il n'y a pas tellement de frontières. En tout cas, moi, j'ai jamais mis de frontières entre la voix parlée, le récit, la chanson, passer d'une chose à une autre, le collage. Tout ça, pour moi, ça circule. Et c'est, en fait, le plaisir de la radio, c'est exactement ça. Et du coup, le plaisir du podcast. Enfin, je veux dire, évidemment, on peut l'imaginer sous toutes ses formes. Aujourd'hui, en fait, c'est ça que je trouve hyper excitant.
Mais par contre, faut une commande parce que, moi, je sais que, comme toi, sûrement, je suis créatif quand j'ai une commande,
Du
coup, je sais pas, on va pas commencer à faire des podcast tout seul chez nous, tu vois, pour nous, quoi. Enfin, si on pourrait, mais
faudrait qu'on rentre fatalement, malheureusement,
dans une forme d'industrie de commande, quoi, pour produire des podcasts.
Absolument. Moi, c'est mieux. C'est quand Didier Varro, il m'a donné cette mission. C'est vrai que tout à coup, les idées ont surgi pour me dire, attention, si tu veux parler de musique, de quoi tu parles, en fait? Et pour moi, l'exploration spatiale, c'était vraiment explorer la musique, explorer l'univers du son avec une émission. Et du coup, c'était le plaisir, c'était de trouver toutes les correspondances là-dedans. Quoi. Et voilà. Et c'est vrai que quand on a, si on nous commande un podcast sur telle ou telle thématique, on aura des idées particulières et des mises en scène de son particulières. Mais aussi parce que c'est un peu notre métier quand même.
Quand même, c'est pas pour rien qu'on vous a demandé de faire de la radio. En effet, quand on fait de la musique, on peut faire de la radio. Juste une dernière question sur la façon que vous avez eu de mener chacun et chacune les entretiens. Est-ce que ça vous a permis de comprendre comment vous allez vous positionner après en tant qu'interviewé? Quand on voit les autres répondre, quand on est intervieweur, on se dit, quand je serai interviewé, est-ce que je vais changer mon cursus?
Moi, j'ai pas eu ça parce que j'ai aussi, à un moment, on m'a proposé de faire un magazine. J'ai fait un magazine, donc j'ai aussi interviewé des gens que j'aimais et j'ai dû aussi, comme le font les journalistes, réécrire ce que disaient les gens.
Ça, c'est pour la presse écrite, oui.
Pour la presse écrite, ouais. Et ça m'a vraiment frappé parce que j'ai vu ma propre incohérence quand je parle aussi, qui doit être retravaillée par les journalistes. Alors, j'ai essayé d'être très fidèle à la pensée des gens que j'aimais, que j'ai interviewé, mais tout en sachant que je la transformait quand même. Ce que moi, d'ailleurs, la plupart du temps, quand je lis des interviews que j'ai faites, je reconnais absolument pas ce que j'ai dit.
C'est
parce que les journalistes l'ont réécrit.
De bout en bout.
Et l'interview, c'est pareil, c'est tellement déstabilisant, ça dépend tellement du temps qu'on a pour parler, de l'écoute de l'autre, qu'on peut pas avoir de règles et de à moins qu'on n'écoute pas et qu'on ait un discours déjà qui est déjà fait et qui repose pas sur une forme de dialogue et d'écoute.
Mais il y a un peu de ça, je trouve, effectivement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert. C'est-à-dire, même quand j'écoute certains animateurs, je sens bien que, à un moment donné, ils veulent arrêter comme toi, maintenant, Laurent.
Exactement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission.
Parce qu'on est à la fin de l'émission. Et que, du coup, ils attendent le moment de t'interrompre et de t'aiguiller ailleurs. Et en fait, ils écoutent sans écouter aussi. Enfin, il y a vraiment ce truc-là.
Eh bien, on va se quitter, justement, avec une voix de radio du matin. C'est Aline Afanoukwe. Elle assure, du lundi au jeudi, le mur du son. Sa chronique musicale enjouée. Je lui demander son choix dans la playlist de France Inter et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est concernant.
J'ai redécouvert Mustang, le trio auvergnat, avec leur quatrième album Memento Mori, où se trouve une sélection de chansons entre comique, cynique, cruel et câline. C'est précisément le cas du titre qui vient d'entrer en playlist sur France Inter, Pôle emploi, gueule de bois. Mustang s'amuse et nous amuse en dépeignant notre société avec humour et décalage. Écoutez bien les paroles où la vie d'un couple va partir en vrille, en galère, autant en fin de vie qu'en fin de droit, et va se noyer peu à peu. Un quotidien qui nous fait rire, jaune certes, mais qui nous fait rire tout de même. Bah alors moi j'adore ce décalage entre la douceur des arrangements et la dureté des mots. Âme sensible, s'abstenir, et n'oubliez surtout pas de faire votre actualisation. On est le 1er juin.
Je vais péter tranquillement sur mon sofa et regarder Gordon Ramsay sur Teva. Je vais commander une énorme pizza. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je ne veux pas parler de l'avenir avec toi, de cet enfant que jamais on ne fera, ni t'entendre me dire que j'ai pris du poids. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. J'ai reçu mon virement de Pôle emploi. C'est mon problème, si cet argent je le vois. Je paie mon loyer, alors bouge de là. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je sais qu'on n'a pas baisé depuis des mois. As-tu l'impression que je suis en état? Tu t'es vu alors, ne t'étonne pas. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Toi aussi tu aimes sortir au. On s'amusait tellement, nous deux, souviens-toi. On baisait même sous des porches parfois. On n'avait jamais la gueule de bois. J'ai reçu mon virement. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Oh, laisse-moi profiter.
Aïe, c'est la fin de Côté Club, édition spéciale Fête de la radio. Que les voix d'Inter soient toujours avec vous. Merci à Barbara Carlotti qui nous a embarqués dans sa cosmique fantasy pour la saison 2013-2014. Merci à Arthur H., notre Dr Love de l'an 2016. Ce soir, Côté Club, c'était Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France. Et ceux qui ont choisi parmi les titres de la playlist d'Inter ce soir sont Mishka Assayas, dont vous retrouvez le Very Good Trip du lundi au jeudi à 21h. Éric et Quentin, qui fabrique le Grand Urbain le samedi à 21h. Et Aline Afanoukwe, que vous écoutez à 7h22 tous les matins pour le Mur du Son, avant le retour de Mathilde Serrel, après-demain. Merci à Mathieu Conquet, qui remet le son chaque samedi à 22h. Merci à Bernard Lenoir, au micro de Marion Guilbeault. Pour ma part, je m'appelle Rebecca Manzoni et je vous donne rendez-vous pour Pop & Co samedi à 11h. Côté club, l'équipe du soir, c'est Stéphane Le Guenec et Étienne Bertin à la réalisation, avec Tiffany Battistel à la console. La programmation est assurée par Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, avec la collaboration de Tiffen Mendes. Et Muriel Pérez veille aux playlists. Demain, Laurent Goumard sera là, même heure, même motif, avec Oxmo Puccino, Core et le retour de Jacques. Côté club, on ferme.